Très content de le retrouver encore une fois en ce mercredi. C'est Marco D'Amico qui est avec nous pour discuter de différentes nouvelles. Mais en commençant avec cet article de RG Media publié ce matin concernant Ivan Demidov. Salut Marco.
Salut, comment ça va?
En pleine forme, toi?
Très bien, merci.
Ivan Demidov, qui fait partie, qui a été mentionné dans cet article de ton collègue Sergei Demidov, aucun lien de parenté avec Ivan Demidov dans ce contexte-là, mais qui a parlé à son ex-coéquipier et un de ses très, très bons amis, Arseny Grichuk, avec qui il a évolué notamment à Saint-Pétersbourg. Et plusieurs choses intéressantes à ressortir de cet article-là. Je veux débuter notamment avec le fait qu'Ivan Demidov s'est entraîné ici au Québec tout au long de l'été à Montréal, Marco, alors qu'habituellement il s'entraînait en Russie. Parle-moi un peu de l'impact et de la décision de Demidov de rester ici au Québec et s'entraîner ici tout l'été.
Oui, en fait, il ne s'est pas vraiment entraîné l'année passée en Russie,
Ouais,
vu malheureusement qu'il
blessure.
avait une blessure à la cheville. Donc, c'est une des raisons pourquoi il a décidé de rester à Montréal pour tout l'été. C'est de bénéficier non seulement de toutes les ressources qu'ont le Canadien de Montréal, mais aussi pour vraiment s'intégrer dans la culture de la ville et de l'équipe. Donc, pour lui, c'était un no-brainer en tant que tel de retourner en Russie après tout le processus de devoir partir et faire son visa et tout ça. Il aurait reparti le bal pour revenir à Montréal en ce moment, pour revenir au camp, faire le camp des recrues. Donc, c'est plus difficile dans ce contexte-ci, tandis que maintenant, tu commences à voir certains Russes qui sont déjà en Amérique du Nord. On a passé Arseny Grichuk, qui va jouer pour les Devils du New Jersey cette année en entrevue. Lui aussi a déjà fait le saut en Amérique du Nord de façon hâtive. Donc, pour un gars comme Demidov, il ne voulait pas nécessairement passer par ces troubles-là. Et en même temps, c'est assez le fun d'être capable d'aller à Brossard et s'entraîner quand il veut, des fois deux fois par semaine, excuse-moi, deux fois par jour sur la glace. Donc, il prend vraiment avantage cette année vu qu'il s'est fait voler d'un été d'entraînement l'année passée à cause de sa blessure.
Ouais, autre information qui a retenu mon attention, Marco. Il a dit qu'il ne voulait pas être trop lourd et qu'il se sent bien à 190-193 livres. J'ai l'impression que quand on est jeune, on arrive dans la Ligue nationale, on a l'impression que les gars veulent prendre du poids, être plus fort physiquement et tout ça. Dans le cas d'Ivan Demidov, c'était pas nécessairement ce qu'il a fait cet été.
Oui, mais il y a une différence comme quand on pèse un joueur, être plus fort ne veut pas nécessairement dire être plus gros. Et je pense que c'est là la différence. Tu peux avoir ajouté de la masse, mais tu as ajouté de la masse, disons, qui est plus durcie. Donc, ça pèse peut-être un peu moins que la combinaison de peut-être le baby fat qu'il y avait avant et le muscle qu'il y avait aussi. Donc, c'est juste en changeant peut-être la physiologie de son corps qu'il peut devenir plus fort, plus vite, plus explosif sans nécessairement ajouter trop de poids que ça vient enlever à sa mobilité. Je pense que c'est vraiment cette combinaison-là, ce fameux sweet spot, comme on dit, la zone grise pour un joueur de sa taille aussi. Je pense qu'il est à 6 pieds 1 en ce moment. Donc, c'est une bonne taille quand même à 190 livres. Il y a quand même de la place pour augmenter, mais il ne voulait pas trop prendre de masse. On se souvient, Juraj Slafkovský, lui, à sa première année, on avait pris de la masse. Je pense qu'il était à 240 livres ou 238 livres à son année recrue dans la Ligue nationale. Donc, juste éviter ce problème-là et de s'assurer qu'il va être capable de suivre la cadence en termes de rapidité et en termes de conditionnement durant la saison complète, parce que 82 matchs plus les séries, si tout va bien, c'est très long pour un joueur. Heureusement pour lui, ou pas heureusement pour les partisans, la Russie ne va pas participer aux Olympiques, donc il va pouvoir avoir cette pause-là en février, mais il faut s'habituer à une longue saison, une saison qui va être, beaucoup plus difficile que ce qu'il a vécu dans la KHL.
Oui, bien évidemment, d'accord avec toi. Il est aussi mentionné dans l'article que Ivan Demidov s'entraîne deux fois par jour, une fois dans le gymnase, une fois sur la patinoire. Marco, j'ai l'impression qu'Ivan Demidov, en ce moment, il est en mission.
Oui, et c'était le même problème, en guillemets, dans la KHL. Je pense que quand on parlait à tous ceux qui étaient autour du SKA, il fallait quasiment barrer la porte du gymnase pour que Demidov ne soit pas là deux ou trois fois par jour. Vraiment un être humain motivé, discipliné. Et je pense que ça l'augure bien parce que c'est, tu sais, se faire voler ce temps précieux de développement-là, développement physique, quand tu as 18, 19 ans, 20 ans, c'est lourd. Donc lui, il prend des bouchées doubles cet été et je pense qu'on va voir les résultats assez nets dès le début du camp d'entraînement parce que Il vole présentement sur la glace et c'est quelqu'un qui, selon moi, sait déjà de quoi il doit améliorer ou de quoi il devait améliorer cet été pour être capable de commencer la saison immédiatement de la bonne voie et ne pas être pris dans ce problème de devoir nécessairement se replacer dans l'organigramme du Canadien et de se réhabituer au style de jeu nord-américain.
C'est quand même encourageant de le voir s'entraîner ici à Brossard durant l'été, de voir qu'il s'entraîne deux fois par jour dans le gym et aussi sur la glace, et de voir aussi qu'il a passé beaucoup de temps avec un certain Lane Hutson pour établir une certaine chimie. Ça te dit quoi ça en vue du début de saison?
Je pense que c'est de quoi applaudir la culture du Canadien de Montréal en ce moment. Je pense que par le passé, on n'a pas vu ce genre de camaraderie-là, ce genre de noyau de joueurs qui se tient vraiment proche. Ivan Demidov est allé à tous les mariages du Canadien de Montréal cette année. Je pense que c'est le seul, en fait. Il a fait la tournée de Montréal. Je connais plusieurs qui l'ont vu à La Salle, qui l'ont vu au centre-ville, qui l'ont vu à Brossard. Il est un peu partout et je pense que ça l'augure bien pour lui parce que il n'a pas nécessairement peur d'être à Montréal et être parmi ses coéquipiers. Je pense que la chimie qui s'installe sur la glace alors que tu as tous les joueurs qui sont là durant l'été ou la grande majorité, c'est vraiment excellent parce que quand tu arrives au camp, tu dois retrouver tes repères avec tes coéquipiers, tu dois recréer cette chimie-là ça, dans certains cas. Mais je pense pas que ça va être le cas avec Demidov qui a eu beaucoup de temps sur la glace avec des Laine, des Hudson, des Suzuki, etc. Donc, pour moi, je pense que tout est en place pour qu'ils connaissent un bon départ de saison. Et maintenant, il suffit juste de garder la santé.
On voit de plus en plus les cotes sortir des différents paris pour paris de jeu pour la prochaine saison. Ivan Demidov domine complètement la catégorie pour la prochaine recrue de l'année. Dirais-tu qu'Ivan Demidov part avec une longueur d'avance qu'un certain Macklin Célébrini, par exemple, la dernière saison, et que la lutte sera moins féroce cette année qu'elle l'était l'an dernier?
Ouf, ça c'est une très bonne question. Écoute, l'année passée, quelle cuvée de recrues, là.
Maison.
Faut vraiment, j'aimerais juste en lancer des fleurs, des Macklin Celebrini, Matvei Michkov, Dustin Wolf, Cutter Gauthier, sans nommer Lane Hudson. C'était vraiment incroyable. Donc, cette année, c'est un peu moins évident de face de qui va vraiment être parmi les trois. Tu sais, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais Yves Bouyem au Minnesota, s'il est offert la première vague de l'avantage numérique risque d'avoir un impact similaire. Je ne dis pas exactement la même chose, mais un impact similaire pour le Wild qu'un Lane Hutson a eu pour Montréal. Il y a d'autres, il y a Alexander Nikishin avec les Hurricanes. Est-ce qu'ils vont donner l'avantage numérique? Est-ce qu'ils vont donner les minutes? Donc, il y a plusieurs joueurs où que leurs minutes ne sont pas garanties. Mais quand tu regardes un joueur comme Ivan Demidov, spécialement avec Martin St-Louis, qui lui aime être un peu plus, faire plus attention à leurs jeunes. Il a été un peu plus, disons, lent avec Juraj Slafkovský. Un peu plus habile avec un Lane Hutson, il a laissé beaucoup de cordes. Donc, je crois que Ivan Demidov, lui, c'est top 6 immédiatement en début de saison. Et avantage numérique, on verra si c'est la première vague. La grande majorité des partisans l'espèrent. Donc, beaucoup d'opportunités offensives, beaucoup de minutes. Qu'il va jouer. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il est toujours sur la glace et travaille sur son conditionnement parce qu'il sait qu'il va être là quasiment à boucher double sur la glace. Il sait, puis il n'y a pas vraiment d'autres joueurs en ce moment qu'on peut envisager et dire il va jouer entre 17 et 18 minutes par soir en attaque ou 22 à 25 minutes en défense en ce moment, outre que Ivan Demidov.
Je veux te lancer un nom qui fait pas partie nécessairement des favoris à l'obtention du trophée Calder. On n'en a pas parlé avant de discuter ensemble en ondes aujourd'hui, mais peut-être que tu as entendu des échos dans la KHL lors de la dernière saison. C'est Maxime Chabanov qui a signé avec les Islanders de New York. Dirais-tu que c'est un peu la carte cachée de cette course au trophée Calder parce qu'il y a 24 ans, il a connu une excellente saison l'an dernier. C'est Zach Foucalé qui nous en parlait sur nos ondes il y a plusieurs semaines, à quel point ce gars-là va en surprendre plus d'un avec les Islanders la saison prochaine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Maxime Chabanov?
Je pense que c'est un joueur qui est quand même hyper talentueux et qui est capable de jouer un jeu qui serait transférable au style de jeu nord-américain. Donc, bonne protection de rondelle, fonce vers le filet, de bonnes mains, bonne vision. Donc, vraiment comme des bons atouts en attaque. La seule chose qui me fait peut-être repenser la situation, c'est les Islanders comme organisation, puis on verra si ça va changer cette année, mais n'a pas nécessairement été une organisation qui est connue pour son offensive. Et donc, c'est un peu ça mon problème. L'année passée, je pense que le meilleur marqueur a eu 56 points ou 57 points avec les Islanders. Ils viennent de perdre un gros morceau offensif avec Noah Dobson. Donc, je crois que Shabanov va avoir ses chances, mais ce n'est pas la première fois que les Islanders signent un agent libre russe qui est convoité et que ce joueur-là n'arrive pas nécessairement à se greffer sur les deux premiers trios. Donc, c'est un peu ça mon. Encore une fois, on rentre dans la question d'opportunité.
Ouais.
C'est qui tu tasses dans le top 6 si, bien sûr, tu as les éléments qu'on connaît, les Andersley, les Barzal, les Horvat, etc. T'as d'autres éléments. C'est certains qui ont perdu Brock Nelson et c'est peut-être là la pièce manquante, tout ce qui pourrait s'insérer. Mais je dis simplement, il a le talent. C'est juste, lui, il n'a pas eu la période d'adaptation que, mettons, un Evan Demidov a eu, spécialement avec les séries. Et donc, ça va peut-être le prendre une dizaine, quinzaine de matchs pour vraiment trouver son momentum.
You know, I said at the end of June, you know, I had every intention just to take my time with it, and I still feel the same way. Take my time and go through everything, and you know, I have every intention to win in Edmonton. That's my only focus. Maybe next to winning a gold medal with Canada, but it is my intention to win there. But yeah, taking my time, going through it with. Obviously, my family, my agent, everybody involved. So, we're going through it slowly.
Voici les propos de Connor McDavid concernant son prochain contrat. Il a dit notamment, on continue à être patient. Je reviens un peu sur les propos tenus en juin dernier, mais j'ai la ferme intention de vouloir gagner à Edmonton. Avant de te lancer sur Kirby Dach, Marco, c'était les propos de McDavid au camp d'orientation de la formation canadienne en vue des Jeux olympiques à Milan en 2026. Est-ce qu'on est près d'une entente dans le cas de McDavid? Tu vois ça comment, ce dossier-là?
Ah, ils n'ont pas encore vraiment échangé les
Ouais.
chiffres d'une partie de l'autre. Comme ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas de stress. Ça risque très bien de se faire. C'est juste, les deux parties ont juste fait, on va aller avoir un été chacun, là, parce que ça fait deux longues poussées dans les séries pour McDavid. Donc, un été assez court l'année passée. Donc, cette année ici, prend son temps, son agent maintenant va avoir des discussions au début du camp et on verra où ce que ça sera. Mais encore une fois, on attend pour voir vraiment où le marché va se situer dans son cas parce que, veux, veux pas, le prochain contrat de Connor McDavid va être le nouveau, il va devenir le plus haut salarié de la Ligue le moment qu'il signe. Donc, c'est évident que les deux parties étudient la situation. Est-ce qu'ils vont 8 ans? Parce qu'ils peuvent encore faire ça jusqu'en septembre 2026. Est-ce qu'ils vont quelque chose à court terme, comme a signé Evan Bouchard? Moi, personnellement, je pense que ça serait entre les deux, sauf si vraiment les Oilers lui donnent la lune. Mais en même temps, si tu veux être un gars comme McDavid, tu veux t'assurer que si tu signes à long terme, que l'équipe va bien t'entourer. Je pense que si tu regardes d'autres équipes championnes, ils ont su bien entourer leurs étoiles. Tu regardes notamment les Penguins de Pittsburgh. On peut toujours parler de Malkin, Crosby et Le Temps, mais c'est des acquisitions secondaires comme Phil Kessel qui ont vraiment aidé la situation, même si Phil Kessel n'était pas un favori à Toronto ou d'autres défenseurs qui ont aidé. On regarde des équipes championnes comme à Washington ou certainement aussi avec les Blues de Saint-Louis, où est-ce que la défensive a vraiment accentué leur apport pour leur aider. Donc, tu regardes une équipe comme les Oilers, McDavid s'attend à des changements. Je pense que le fait que le plafond va augmenter à la rapidité que ça va faire, 9% par saison, va grandement leur aider à leur donner un peu de lousse finalement pour aller chercher de l'aide pour McDavid parce que les joueurs veulent jouer avec McDavid. C'est juste les Oilers n'avaient pas de place sous la masse salariale ni les atouts pour faire des échanges. Donc là, qu'ils vont avoir les deux dans les 2 ou 3 ou 4 prochaines années. C'est peut-être là où ce que McDavid va se dire 5, 6, 7, 8 ans, je peux me voir à long terme, tant si longtemps que tu t'accordes à être agressif.
Mais est-ce que tu trouves que les Oilers en ont fait assez durant cette entre-saison pour inciter Connor McDavid à signer une entente de 4 ou 5 ans là-bas?
Non, je pense pas qu'il y a beaucoup de. Je pense qu'il y a peut-être trois ou quatre DG de la Ligue nationale qui ont vraiment fait du bon boulot cet été. Le reste, c'était tout feu, tout flamme. L'été d'échange et des offres hostiles et personne n'a rien fait. Parce que tout le monde a peur de reculer en ce moment avec tellement qu'il y a de parité. Ça fait en sorte qu'une équipe championne comme les Oilers ne peut pas faire grand-chose sauf de surpayer, mais ils n'ont pas les atouts pour surpayer.
Non.
Malheureusement, c'est ça le problème. Donc, ils ont les éléments qu'ils ont. Ils ont de la place sous la masse, donc ils vont être capables de faire des échanges à la date limite des transactions. Mais vraiment, la grosse chirurgie pour cette équipe-là, je crois, serait l'été prochain, quand ils vont avoir un 8-9 millions de plus. D'ailleurs, on verra qu'est-ce qui va se donner avec le contrat de McDavid, mais c'est quand même beaucoup plus de place pour aller chercher d'autres éléments. Et peut-être finalement prendre une décision sur Darnell Nurse et son contrat.
Ouais, parce que je regarde le contrat de Darnell Nurse, 9,25 millions par saison encore pour 5 années, jusqu'en 2029-2030. Je
Quel
pense
contrat signé Kent Hughes?
incroyable. Parce que Darnell Nurse à ce prix-là. Oui, c'est Kent Hughes qui a fait en sorte que Darnell Nurse gagne autant d'argent avec les Oilers d'Edmonton. Je veux te parler brièvement de Kirby Dach. On l'a vu pour une troisième journée de suite, pardon, sur la patinoire à Brossard. Semblait très intense à l'entraînement ce matin, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment vois-tu ça, sa remise en forme, et est-ce que tu penses que c'est de bon augure pour les Canadiens?
C'est certain que le voir sur la glace et le voir de patiner de cette intensité-là, c'est de bon augure. Et écoute, c'est excellent. Le club a besoin de lui et je pense que lui a besoin d'être sur la glace le plus vite possible. S'il n'est pas prêt pour le début de la saison, au moins la semaine d'après, au gros maximum. Et selon ce que je dis au monde, c'est le Canadien ne va pas le pousser nécessairement à être prêt avant qu'il le soit. Mais le joueur lui-même sait que c'est vraiment la saison. C'est la dernière chance pour lui à titre de deuxième centre à Montréal. Et il se doit d'être prêt à relever ce défi-là. Si on regarde par contre la situation, c'est que sa chirurgie au genou a été faite par le même chirurgien qui a fait la chirurgie de un certain David Reinbacher. David Reinbacher, lui, avait commencé à patiner en février, début février. Et il a fait ses débuts, si je me trompe, début ou milieu de mars.
Ouais.
Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à le voir à Laval, ici et là, sauter un match ou deux, etc. Donc, si je me fie à cette même situation-là, d'ailleurs, la blessure à Kirby Dach était un peu plus sévère que celui de David Reinbacher, juste pour prendre en considération. Donc, je me dis que un mois et quelques pour une remise en forme, une fois que tu commences à pratiquer de façon assez intense, c'est d'habitude, c'est la cédule qu'on donne à des joueurs comme ça. Donc, je me dis, si on est en fin août en ce moment et que Kirby Dach est en train de patiner avec une telle intensité, ça augure bien que le Canadien puisse le voir au moins dans un match hors concours avant la fin de la saison, la pré-saison, excuse-moi. Et si je suis le Canadien de Montréal, je ne suis pas pressé nécessairement de le voir dans les deux ou trois premiers matchs alors que les joueurs de la Ligue américaine et de la Ligue de l'Ouest et des juniors vont pas mal occuper les alignements des équipes adverses. Donc, prendre son temps, s'assurer que tout est bon. Mais c'est certain que le Canadien de Montréal est content de ce qu'il voit en ce moment. Et Kirby Dach se doit aussi de se donner à 100% et démontrer que, outre son genou, il est dans une forme exceptionnelle. Et selon ce que je me suis fait dire, tout semble pointer vers le fait qu'il est prêt physiquement. Pour la saison, suffit juste de faire en sorte que son genou, un élément très important pour un joueur de centre, est OK, est à 100%.
Marco D'Amico, d'RG Media, également co-animateur du podcast Processus et collaborateur au Tailgate et dans l'Arrêt Gonzalez. Un gros merci pour ton temps. On refait ça pour une dernière fois, toi et moi, vendredi 15h dans l'émission. On parlera davantage du contrat de Carey Price. Oli et moi, on en a jasé en ondes hier, mais je pense que tu es une des meilleures personnes très bien placées pour nous parler de l'impact d'une transaction dans le cas du contrat de Carey Price, parce que le Canadien va lui verser son boni à la signature lundi prochain, le 1er septembre, et par la suite, ce sera plus facile de le transiger. Alors, on va jaser tout ça ensemble vendredi à 15h. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui.
Un gros plaisir. Bonne journée à tous les auditeurs.